en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui l'un des plus grands historiens français, spécialiste éminent entre autres de l'histoire religieuse, Jean Delumeau, qui a tenu au Collège de France de 1975 à 1994 la chaire d'histoire des mentalités religieuses dans l'Occident moderne et qui a été élu le 26 février 1988 membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. Jean Delumeau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel, 7 questions récurrentes posées à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Tout de suite, la première question, dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été, Jean Delumeau, jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel ?
Le moment essentiel a été incontestablement mon élection au Collège de France en 1974 et début des cours pour moi en 1975. Mais j'ajouterai presque aussitôt que mon élection quelques années plus tard à l'Académie des inscriptions et belles-lettres était dans la logique, si j'ose dire, de cette première élection, de sorte que dans mon souvenir, si vous voulez, finalement ces deux élections se rejoignent.
Mais quelle est, à votre avis, la spécificité de l'enseignement qui est donné au Collège de France ?
Voilà, c'est un enseignement unique en ce sens que le Collège de France, depuis François Ier qui l'a créé, n'est pas une université. Et donc le Collège de France ne prépare à aucun examen, à aucun diplôme, ne délivre aucun papier, si vous voulez, aucun parchemin. On est auditeur au Collège de France, vient qui veut. C'est libre et gratuit, simplement pour les séminaires. Là, on ne peut pas faire un séminaire avec 200 ou 300 personnes. Et donc, pour les séminaires, il faut s'inscrire pour être une vingtaine, une trentaine. En revanche, pour les cours, vient qui veut.
Et quel est le public, en fait ? Celui que vous aviez, vous ?
Alors, le public que j'avais est aussi le public de la plupart de mes collègues du collège. Il y a un public propre du Collège de France. Alors, qui d'une part est constitué des gens déjà en place ou même des gens qui sont déjà à la retraite, mais qui veulent continuer à se cultiver. Et c'est un public, d'ailleurs, je dois dire, très fidèle. Mais d'autre part aussi, il y a, ça va peut-être vous étonner, mais peu d'étudiants. Parce que les étudiants, ils préparent des examens, des concours, des licences, CAPES, agrégation. Et ce que l'on fait au Collège de France ne correspond pas à leur programme. Par conséquent, il part au plus pressé, c'est-à-dire à préparer les programmes des concours qu'ils devront passer. Alors que nous, d'après la formule d'origine du Collège de France, nous enseignons la recherche. Pour ce qui est de l'histoire, l'histoire en train de se faire. Et dans ces conditions, on enseigne, on fait part en quelque sorte de nos itinéraires d'historiens dans des sujets qui ne sont pas forcément ceux des universités. Je prends un exemple très précis. Mon histoire de la peur, par exemple, suivie ensuite d'une histoire du sentiment de sécurité, puis d'une histoire de l'espérance, ça ne peut pas faire l'objet de cours dans les universités. Voyez-vous, ce n'est pas au programme. Donc, je ne pouvais faire ça qu'au Collège de France. Et c'est pour ça que j'ai répondu tout à l'heure. Le grand moment pour moi, ça a été vraiment de passer des universités, Rennes puis Paris, de passer des universités, traverser la rue Saint-Jacques et arriver au Collège de France.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a en France une césure grandissante, je dis bien grandissante, entre un univers public et médiatisé et un monde de la culture et de l'intelligence quasi souterrain, dont l'existence et les travaux ne seraient connus que de quelques dizaines de milliers de personnes ou pas ?
Oui, alors moi je ne dirais pas exactement ça, dans la mesure où les sujets que j'ai pris comme sujets de recherche étaient des sujets, certes, d'érudition, je ne vais pas le cacher, en même temps, ce sont des sujets aptes à toucher un large public. Et par conséquent, moi, je n'ai pas eu ce sentiment de coupure entre une certaine culture intellectuelle et puis les aspirations du grand public. Naturellement, je ne dis pas qu'on lit mes livres comme des romans policiers. Néanmoins, il est certain qu'il y a une certaine audience pour ce genre d'enquête historique.
Mais vous-même, par exemple, est-ce que, c'est une question évidemment un peu primaire, mais est-ce qu'il y a quelques intelligences françaises qui vous ont plus marqué que d'autres dans votre carrière ? Est-ce qu'il y a 2 ou 3 comme ça ?
Oui, bien sûr. Mais alors, je vais citer essentiellement des historiens.
Oui, bien sûr.
Mais je dois dire que quand j'étais élève à l'École normale supérieure, j'ai lu un livre qui m'a paru extraordinaire, qui est « La société féodale » de Marc Bloch. Et ce livre, je dois dire, au fond, quand j'y réfléchis avec le recul du temps, est celui qui a déclenché mes principaux intérêts historiques. j'avais déjà, à l'époque, décidé de faire une agrégation d'histoire. Mais j'ai lu ce livre et il m'a ouvert des horizons en ce sens qu'il prenait l'histoire à travers un éclairage qui n'était pas habituel à l'époque. C'est-à-dire, on va dire les choses autrement, l'éclairage des mentalités. Qu'est-ce qui constituait la mentalité féodale? Qu'est-ce qui constituait le substrat de la vie quotidienne à l'époque féodale? Et donc, il faisait appel à toutes sortes de sources, voyez-vous. Et c'est ça qui m'a le plus intrigué et intéressé, c'est justement cet éclairage multiple venant de plusieurs projecteurs fonctionnant ensemble.
Alors, qui lui permettait d'avoir une perception différente des choses. Hein. Oui. Par exemple, sur 1940, quand il parle de l'étrange défaite, le mot étrange, c'est pas un mot d'historien, en fait.
Oui. Exactement. Bon, c'était un homme qui voyait les choses avec, disons, un regard d'avance, hein, vraiment. Et ça, naturellement, je ne savais pas quelle allait être sa fin tragique, mais je veux dire que ce livre m'a marqué. Un second livre, c'est La Méditerranée, le monde méditerranéen de Brodel. Alors, Brodel n'a pas été mon patron de thèse parce que, à l'époque où j'ai commenté ma thèse sur Rome au XVIe siècle, les professeurs du Collège de France ne pouvaient pas diriger des thèses. Maintenant, ils le peuvent. Hein. Ils le peuvent, mais ils ne le pouvaient pas à l'époque. Donc, Brodel a été mon patron de thèse in partibus. Mais je lui rendais compte régulièrement de mes travaux. Il a d'ailleurs été à mon jury de thèse. Et son livre « La Méditerranée et le monde méditerranéen » m'a paru un chef-d'œuvre et je le maintiens. Même si l'homme, Brodel, est parfois discuté, moi, je considère que Brodel a été un des plus grands historiens français du XXe siècle. Et le troisième que je vais citer après, c'est Philippe Ariès. Philippe Ariès, dont le livre, alors 1960, alors que la thèse de Brodel a paru pour la première fois en 1949, mais le livre de Philippe Ariès, qui était, comme il s'est défini lui-même, un historien du dimanche, il n'est que venu sur le tard à l'école des hautes études, hein. Mais son livre sur l'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime m'a séduit, parce qu'il traitait pour la première fois d'un sujet qui n'avait jamais été abordé pratiquement par les historiens. Et il le faisait, lui aussi, comme Brodel et comme Marc Bloch, avec un luxe de documentation tout à fait extraordinaire. Et je dois dire que quand j'ai pris moi-même pour sujet d'étude la peur, naturellement c'était un sujet tout différent de celui de Philippe Ariès, mais tout de même, ma démarche était un peu parallèle. Je prenais un sujet qui n'avait pas été abordé et j'essayais de découvrir grâce à de multiples sources.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Jean Delumeau, qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire aujourd'hui sur votre domaine d'activité et sur ce que vous faites actuellement? Alors commençons, si vous le voulez bien, par votre domaine d'activité, donc le métier d'historien.
Oui.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire d'essentiel sur ce métier tel qu'il est pratiqué aujourd'hui?
Alors, je me réjouis beaucoup que, grâce notamment à quelques-uns des maîtres dont j'ai parlé tout à l'heure et puis d'autres que je n'ai pas mentionnés, l'histoire quand même se porte assez bien en France. On peut dire que les deux pays qui ont le plus d'historiens dans le monde sont la France et les États-Unis. Et il y a une tradition d'histoire en France qui, en gros, remonte à Voltaire, le siècle de Louis XIV. Voyez-vous. Et cette tradition, c'est une histoire aussi complète que possible, aussi large que possible, en même temps écrite dans un style lisible. Moi, je n'aime pas qu'on jargonne, j'essaie de ne pas jargonner. Voltaire ne jargonnait pas. Marc Bloch, Lucien Febvre, Brodel, Philippe Ariès ne jargonnaient pas. J'essaie de ne pas jargonner. Donc, l'historien en France, c'est une originalité française, s'adresse à un assez large public. Et je veux continuer, tant que je pourrai, je veux continuer dans cette filière. Parce que je crois que l'historien a des choses à apporter à des gens qui n'ont pas le temps de l'être, parce qu'ils ont un autre métier.
Alors à propos de l'apport des historiens, au moment de la sortie du film La Rafle, l'ancien président de la République Jacques Chirac a publié dans le journal du dimanche une tribune remarquée dans laquelle il déclarait notamment « Il n'y a pas de grande nation, pas de cohésion nationale, pas de capacité à relever les défis du monde sans mémoire. » C'est une manière d'affirmer l'éminente dignité du travail d'historien.
Je le crois. Je le crois vraiment. J'espère, moi, tout du moins c'est comme ça que je conçois, j'espère que nous rendons service non seulement à la nation, parce que nos livres sont traduits, mais aussi à d'autres, nous rendons service, c'est prétentieux, je veux dire, à l'humanité, par notre travail. C'est pas seulement pour nous. Hein. Et je pense que beaucoup d'autres historiens font comme moi, mais quand j'écris, j'essaie de parler à mes lecteurs. Je les vois, si j'ose dire.
C'est un dialogue.
C'est un dialogue. Je conçois mon écriture comme un dialogue avec eux.
Alors vous dites on ne peut pas construire de république sans mémoire, mais dans la France métissée et multiculturelle qui est en train de se développer, qu'est-ce qui peut faire mémoire commune en fait?
Eh bien, je dirais que tout est mémoire commune. C'est-à-dire non seulement la mémoire de l'Hexagone, mais la mémoire des pays dans lesquels nous avons été présents. Et par conséquent, je ne vois pas pourquoi l'histoire de la Martinique ou de la Guadeloupe, voyez-vous, et aussi l'histoire du Sénégal et des autres pays que nous avons entre guillemets colonisés, je ne vois pas pourquoi cette histoire ne nous serait pas commune. Parce que finalement, quand même, nous parlons la même langue au total et nous avons maintenant des racines communes. Et il me semble que là, au contraire, si nous savons prendre les choses du bon côté, nous donnons un exemple pour la réussite, espérons-la, de la mondialisation en train de se faire. Nous faisons, à notre petite échelle francophone, nous faisons quand même un essai de mondialisation. Et il faut continuer dans cette voie.
Alors bientôt, nous allons célébrer le 70e anniversaire de l'appel du 18 juin. Est-ce qu'à travers toutes ces célébrations et notre insistance sur ces célébrations, vous avez l'impression qu'on a du mal à exorciser ou non la débâcle de mai-juin 40 ?
Alors, il ne faut pas l'exorciser. Enfin, je veux dire que la défaite de 1940 a été, et ça on ne le dit peut-être pas assez, a été une conséquence de la guerre de 14-18. La France est sortie épuisée de la guerre de 14-18. Et elle avait peut-être les moyens matériels, en 39-40, de résister à l'avance allemande, mais elle n'avait pas les moyens psychologiques. La France n'était pas en mesure de recommencer la guerre. Et alors, le côté prophétique de De Gaulle, c'est d'avoir pensé qu'avec l'aide des Alliés, la France pourrait retrouver, en quelque sorte, son goût d'indépendance. Mais en 1940, la France a été abasourdie par la défaite. Et elle a baissé les bras. La plupart des Français ont baissé les bras en 1940. Et c'est après coup, qu'on a compris que l'appel de De Gaulle, qui est un des plus grands moments de l'histoire de France, que l'appel de De Gaulle, évidemment, en quelque sorte, rétablissait la situation. Et avec une France qui a au total été moins touchée que la plupart des autres pays d'Europe par la guerre de 39-45.
Et vous-même, qui êtes chrétien, je crois qu'on peut le dire, quand on évoque la débâcle de 40, donc phénomène essentiel de notre histoire, vous avez une vision tragique de l'histoire ?
Alors, question bien difficile. J'ai une version tragique de l'histoire en ce sens que je constate qu'il y a eu des guerres tout au long de l'histoire. Et d'autre part, qu'elles sont de plus en plus sanglantes. C'est un fait. Mais d'autre part, je constate quand même qu'il n'y a pas que le mal en histoire. Et je m'insurge un tout petit peu contre la vision constamment pessimiste que les médias nous donnent. Là, je réagis contre, en disant qu'il n'y a pas que le mal dans l'homme, et il n'y a pas que le mal dans l'histoire. Nous avons quand même construit de belles civilisations. Nous avons réussi de magnifiques œuvres d'art. Nous avons quand même réussi à progresser dans le temps et dans l'espace, il faut continuer en rejetant évidemment ce qui contrecarre ce projet et cette marche en avant. Mais cette marche en avant, je pense qu'elle peut continuer, qu'elle doit continuer. Et c'est peut-être l'histoire justement qui nous permet de voir tout de même tout le chemin parcouru. Bon, parfois, il est vrai qu'on peut désespérer de l'homme, mais en même temps, tout de même, nous avons aussi, nous les êtres humains, nous avons fait de belles choses.
Et de ce point de vue, par exemple, vous êtes très attaché à tout ce que le monde chrétien a apporté à ce qu'on appelle la modernité.
Oui, je pense que la modernité puise grandement ses racines dans le christianisme. Naturellement, je ne vais pas tout ramener au christianisme. Et en particulier, il y a eu les civilisations égyptiennes, chinoises, les civilisations méditerranéennes en général. Mais enfin, le christianisme, à mon avis, est à l'origine des droits de l'homme. Même si Piscis a condamné la déclaration des droits de l'homme, je suis persuadé tout de même que le christianisme est à l'origine des droits de l'homme. C'est dans les pays de passé chrétien, que la femme a tout de même acquis une stature et une liberté qu'elle n'avait pas, qu'elle n'a pas encore dans beaucoup de pays. Je vais vous donner un exemple. Au Japon, où je vais une fois par an, beaucoup de jeunes filles portent des croix. Je me suis demandé pourquoi. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas tellement de chrétiens au Japon. On me dit non, mais pour elles, c'est un signe de modernité. Autrement dit, c'est une revendication de liberté. Et ça, on ne le sait pas assez. Et je pense, enfin, malgré le procès de Galilée, que je continue à déplorer, malheureusement, mais malgré le procès de Galilée, malgré la réticence vis-à-vis de Darwin, c'est dans les pays chrétiens qu'est née la science moderne. Et par conséquent, ça, on ne peut pas le nier. Voilà, par conséquent, sans parler des réalisations artistiques dans tous les domaines qui sont le résultat du christianisme. Par conséquent, l'apport du christianisme à la civilisation a été, comme historien, je dis, énorme.
Alors, deuxième aspect de cette question, donc, qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire sur ce que vous êtes en train de faire actuellement ?
Alors,
en amont.
Oui, alors, je travaille à l'histoire du paradis.
Déjà publié trois volumes.
Hein, je vais en publier un quatrième qui sera une sorte de synthèse avec davantage de dialogue avec le lecteur, pas d'érudition. Donc, un ouvrage carrément grand public, assez grand public, hein, une sorte de conversation familière sur le thème du paradis. Et je crois que c'est important parce que nos gens sont en demande de paradis, qu'il s'agisse de paradis terrestres s'agisse même parfois de paradis fiscaux, mais plus exactement et plus profondément de l'au-delà. Je pense que même si actuellement la préoccupation de l'au-delà n'est pas prégnante chez nos contemporains comme elle l'était par exemple au XVIe ou au XVIIe siècle, néanmoins nos contemporains restent préoccupés par le sens de la vie et le sens de la mort. Et le sens de la vie et le sens de la mort, ça aboutit forcément à un questionnement sur l'au-delà.
D'autant qu'il n'y a plus de grandes réponses idéologiques qui semblaient combler cette demande.
Alors justement,
tous les grands ismes, communisme, fascisme,
même
ultralibéralisme.
Oui, absolument, y compris l'ultracapitalisme. Nous sommes en train de vivre, surtout depuis le 11 septembre, mais nous sommes en train, et malgré la chute du mur de Berlin, nous sommes en train de vivre l'effondrement d'une grande espérance. C'est-à-dire la notion que le progrès, on le croyait au 19e siècle, que le progrès allait apporter à la fois l'amélioration morale et l'amélioration des conditions de vie. Il y a eu amélioration des conditions de vie, du moins dans nos pays. Mmh. Amélioration morale, c'est moins évident.
C'est aussi ce que disaient les encyclopédistes. Enfin, c'est le grand rêve de Diderot, d'Alembert.
Voilà, c'est ça. C'était le rêve. C'était le rêve de Victor Hugo. Et c'était le rêve aussi de Lamennais, etc. Il y a eu un grand... À partir de l'époque des Lumières, jusqu'au début du XXe siècle, il y a eu un grand rêve du progrès de l'humanité, notamment par l'instruction et puis par le progrès des connaissances. Mais maintenant, ça... On voit bien que ça ne suffit pas.
On va revenir à ce sujet-là tout à l'heure. Troisième question récurrente de notre série d'essentiel. Donc, on va insister donc sur votre regard sur le monde aujourd'hui et notre société aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous paraît sur ce plan-là essentiel à dire ?
Alors, je vais me placer à trois niveaux successifs. Au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial. Au niveau français, je ne cache pas que je suis chauvin. Je veux dire que je crois vraiment, mais très profondément, que la France est le plus beau pays du monde. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des beaux paysages ailleurs. Hein. Mm-hmm. Les chutes de l'Iguassou, par exemple, sont absolument magnifiques. L'été indien au Canada ou aux États-Unis, c'est magnifique. Bon, ceci dit, l'Europe synthétise, réunit quelques-uns des plus beaux panoramas du monde et sur un espace finalement relativement réduit. L'Europe est très belle. En plus, l'Europe est parsemée de monuments magnifiques. Il y a bel et bien un passé européen. Et ayant travaillé sur la Renaissance, j'ai écrit une civilisation de la Renaissance, j'ai voulu montrer que la civilisation de la Renaissance était une civilisation non seulement italienne, mais européenne. Et je reprends une formule de Michelet, d'ailleurs. Michelet qui caractérisait la Renaissance par trois visages, par trois figures, Christophe Colomb, Copernic et Luther. Effectivement, c'est tout à fait remarquable. Et j'ajoute aussi que la plus grande invention de la Renaissance, qui est l'imprimerie...
Hein, qui faisait tellement peur.
Oui, mais elle a été très vite adoptée. Hein, très vite adoptée, l'imprimerie.
Qui a fait sortir la culture des abbayes, au fond.
Absolument. Et l'imprimerie est une invention allemande et des métallurgistes. Invention des métallurgistes au milieu du XVe siècle.
Alors ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau.
Qui découle de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que j'ai dit une Renaissance européenne, une culture européenne. Naturellement, je sais bien qu'il y a des dissemblances d'un pays à l'autre, bien sûr. Néanmoins, il y a un espace culturel européen qui, à mon avis, est une réalité qu'on peut voir quotidiennement. Surtout maintenant où, en 2 heures d'avion, on est à Budapest ou à Prague ou à Cracovie et aussi à Moscou. Les plus belles églises du Kremlin ont été construites par des architectes italiens au début du XVIe siècle. Donc, c'est vrai aussi, mais... Et puis il y a Saint-Pétersbourg qui est une réussite des Lumières, etc. Par conséquent, il y a vraiment une civilisation européenne, malgré des différences que je constate, il y a une civilisation européenne qu'il faudrait traduire un jour par une véritable unité politique, qui n'existe malheureusement pas encore.
Sur ce plan-là, nous sommes des nains, quoi.
Ah oui, pour l'instant, oui. Parce que tant que nous n'aurons pas une politique étrangère commune, tant que nous n'aurons pas une force armée commune, et je dirais un président élu au suffrage universel pour 5 ou 6 ans, ben nous n'aurons pas vraiment une Europe qui soit audible dans le monde. Pour l'instant, l'Europe n'est pas audible. Ben je souhaite qu'elle soit audible. Mais en même temps, Je souhaite que cette Europe, s'il existe un jour, ce que j'espère, que cette Europe travaille pour le bien de l'humanité. C'est-à-dire pas pour des bombes atomiques, pas pour des réussites industrielles sensationnelles, non, qu'elle travaille pour une civilisation mondiale commune, car nous sommes en chemin, de toute façon, vers la mondialisation, c'est-à-dire vers une gouvernance mondiale. Je souhaite que l'Europe, enfin constituée, travaille pour une gouvernance mondiale, laquelle travaillerait à son tour pour la paix.
Et en étant nourri de sa culture fondamentale.
Justement, en raison même de son passé, et en raison aussi de ses expériences.
Oui, c'est ça. Et ça, c'est le troisième niveau.
Et c'est le niveau mondial.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, Jean Delumeau, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps?
Alors,
il y a une part de jeu dans la question, bien sûr.
Oui,
hein,
oui, alors justement.
Dire, il y en a plein,
alors tout d'abord, mais je ne vous cache pas, je savais que vous me poseriez la question sur l'hypocrisie, et j'ai regardé dans les dictionnaires. Et alors, l'hypocrisie, à l'origine, c'est le jeu de l'acteur.
Ah bon,
c'est le jeu de l'acteur
qui
prend la peau, en quelque sorte, d'un autre individu et qui n'exprime pas son propre sentiment, mais le sentiment de la personne qu'il joue, qu'il figure. Bon. Puis, ça a pris le sens, en France, à partir du Tartuffe, n'est-ce pas, de celui qui simule des sentiments et des attitudes religieuses qu'il n'a pas vraiment. De sorte que nous, en France notamment, nous faisons un peu une synthèse de tartufferie et de hypocrisie religieuse. Bon. Alors, simplement, alors je veux, à notre époque, je dirais, nous tous, Français, nous sommes d'une certaine façon des hypocrites. En ce sens que nous proclamons partout dans le monde les droits de l'homme que nous avons inventés, etc. Mais en même temps, quand il s'agit d'affaires, nous négocions avec la Chine, nous négocions avec la Russie, nous négocions avec les Émirats. Et là, on n'y regarde pas trop près.
Oui, là, l'argent n'a pas d'odeur.
Voilà, et justement, on rencontre le Dalai Lama, non pas dans les bureaux de l'Élysée, mais dans un monastère bouddhique du centre de la France, voyez-vous. Donc là, il y a une hypocrisie. Mais est-ce que je vais défendre l'hypocrisie? Je ne sais pas. Mais toutefois, je veux dire que, et notamment depuis Calvin, qui a écrit un texte qui s'appelle « Excuse à messieurs les Nicodémites », il a appelé, c'est lui qui les a appelés Nicodémites, des gens qui étaient protestants, disait-il, de cœur, mais qui n'osaient pas s'affirmer comme tels et qui continuaient à aller au culte catholique. Alors il s'en prend à eux, et sévèrement. Mais Calvin est peut-être allé trop vite en besogne. En ce sens qu'il y a eu pas mal de gens au XVIe siècle, nous le savons mieux maintenant peut-être qu'il y a quelques années, il y a un certain nombre de gens qui ne savaient pas très bien s'ils étaient protestants ou catholiques. Et qui étaient partagés, tiraillés entre les deux, voyez-vous. Et par conséquent, il ne faut pas trop vite leur jeter la pierre. Je dirais aussi que nous tous, moi le premier, nous sommes un peu des hypocrites parce que nous essayons de nous faire voir par autrui sans doute mieux que nous ne sommes.
Oui.
Donc, est-ce que la vie en société ne nécessite pas une certaine, entre guillemets, hypocrisie? Voilà la question que je pose. Et puis enfin, alors c'est l'historien qui reparle ici, il serait bon qu'il y ait une histoire de l'hypocrisie. Il n'y en a pas.
En plusieurs volumes.
Ah, peut-être, oui, exactement. Mais oui. En particulier... Il y a eu ça, le travail n'est pas encore fait, il est trop tard pour que je le fasse, mais je signale à ceux que ça intéresserait. Il faudrait faire en Occident une histoire du rigorisme qui irait du milieu de la fin du XVIe siècle et au début du XXe siècle.
Et vous maîtrisiez
aussi bien catholique que protestant. Parce
l'hypocrisie comme la conséquence du rigorisme?
Oui, comme une attitude vis-à-vis du rigorisme. Pensez, la révolte de Schopenhauer, c'est une révolte contre le rigorisme de son père. Ce qu'on a appelé en Angleterre au XIXe siècle le dimanche victorien, c'est qu'on s'ennuyait furieusement le dimanche, etc., etc. Il n'y a pas d'histoire du rigorisme. Ça serait énorme à faire.
Alors, puisque vous associez dans la réflexion les perspectives religieuses à l'hypocrisie, question toute simple, êtes-vous de ceux qui voient dans toutes les critiques adressées actuellement au pape Benoît XVI à l'occasion du scandale des prêtres pédophiles, beaucoup, beaucoup d'hypocrisie?
Je ne dirais pas hypocrisie. Je dirais que, d'une part, il y a incontestablement, notamment en France, mais pas uniquement en France, aussi aux États-Unis, il y a actuellement une sorte d'offensive tous azimuts contre Benoît XVI, incontestablement, et on essaie à toute force de trouver... La plainte, notamment les avocats des États-Unis, essaient de susciter la plainte qui permettrait de l'attaquer en justice. Bon, pour l'instant, ils n'y sont pas parvenus. Ceci dit, il est certain que la crise de l'Église catholique, maintenant, nous avertit que l'Église catholique doit changer sa gouvernance. Ça, j'exprime mon opinion personnelle.
Est-ce que vous pensez que, en l'occurrence, là, l'Église est victime de sa culture du silence quelque
part ? Ah oui, indiscutablement. Parce que cette culture du silence, elle existait à tous les niveaux. Tous les niveaux, et par conséquent, je pense que c'est un des reproches justifiés, malheureusement, que l'on peut faire à l'Église catholique, et que pour casser enfin cette culture du silence, il faut que l'Église catholique s'ouvre à une gouvernance beaucoup moins, comment dirais-je, centralisée à Rome, beaucoup plus contrôlée par l'Église elle-même. Parce que maintenant, on est revenu au gouvernement de l'Église du 19e siècle, c'est-à-dire que tout se fait au Vatican, et puis les fidèles obéissent ou n'obéissent pas, d'ailleurs maintenant, voyez-vous. Mais à mon avis, il faut changer ça.
Mais est-ce que derrière cela, il n'y a pas une grande question, énorme question pour l'Église, c'est-à-dire ne plus considérer que le respect de l'institution, car porteur de l'Évangile et témoin du Christ, que ce respect de l'institution passe avant le respect même de la liberté. En fait, la grande question d'Antigone et de Dreyfus.
Oui, alors...
Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que ce n'est pas clé, ça ?
Cette question est bel et bien posée à l'Église romaine et notre civilisation nous demande justement, et demande à l'Église romaine, de changer cette façon de gouverner parce que les fidèles demandent maintenant le droit à la parole, le droit à la transparence.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel, Jean Delumeau, quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir ?
Je dirais d'une part, malgré tout, malgré ce que nous venons de dire au cours de notre conversation, je pense que la mondialisation est en marche et elle est en marche avec des objectifs que je dirais nous approuvons tous. C'est-à-dire désarmement généralisé, dénucléarisation des forces armées, comment dirais-je, lutte contre un capitalisme mondial qui fait le malheur des populations pauvres, etc. Je crois qu'il y a une demande dans le monde, une demande de justice sociale, une demande de paix, plus importante qu'elle n'a jamais été, et je dirais plus à portée de la main qu'elle n'a jamais été. Alors vous allez me dire, ben vous êtes très optimiste, et c'est vrai. C'est vrai, je le suis peut-être trop. Néanmoins, l'idée de gouvernance mondiale fait son chemin actuellement. Et dans les différents cercles gouvernementaux, dans les différentes églises, et notamment, je constate, et là je suis tout à fait d'accord avec lui, que le pape Benoît XVI appelle de ses voeux cette gouvernance mondiale. Donc, je pense que l'horizon devrait être celui d'une gouvernance mondiale qui, évidemment, nous demanderait beaucoup de sacrifices individuels. J'entends individuels et puis collectifs à l'étage national. Ça, c'est vrai. Et il faut savoir ce qu'on veut. Mais n'empêche que si on pouvait arriver à construire un monde où il y aurait moins de victimes, plus de justice sociale, on aurait bien travaillé. Et je crois qu'il faut y travailler parce qu'il n'y a pas d'autre objectif possible. C'est ça ou c'est la catastrophe mondiale, compte tenu des moyens matériel dont nous disposons.
Alors voilà l'espoir. Tout à l'heure, vous parliez des peurs, vous parliez des inquiétudes pour demain. Quel rapport faites-vous entre les peurs dont vous parliez dans cet ouvrage remarquable publié en 1978, la peur en Occident, 14e, 18e siècle, une cité assiégée. Y a-t-il des points communs entre les peurs donc, qui étaient éprouvées à cette époque-là et nos peurs d'aujourd'hui ?
Oui.
Et des leçons à tirer de cela ?
Oui. Alors, justement, le sous-titre de mon livre « La peur en Occident, c'est une citadelle assiégée ».
Voilà, c'est ça.
Et ce sous-titre, je l'explique au cours du livre, ce sous-titre, c'était l'Église. L'Église qui s'est vécue à l'époque, et le mot Renaissance se trompe parfois, l'Église qui s'est vécue entre le 15e et le 18e siècle comme une citadelle assiégée. Assiégée par qui ? Bon, assiégée par des guerres intérieures, par le grand schisme, assiégée par l'avance des Turcs, c'était vrai, tout ça en même temps, et puis par les ennemis de l'intérieur. Car par exemple, la chasse aux sorcières, c'est pas du Moyen Âge, c'est de la Renaissance.
Mais et ça, on le sait pas. On a du mal à l'imaginer.
Eh oui, pourtant, ouais, le grand siècle des ouvrages de démonologie, c'est le 16e siècle. Alors, il y avait eu des condamnations pour sorcières avant, mais les grandes condamnations de sorciers et de sorcières, c'est le 15e, 16e et le début du 17e siècle. Donc, c'était les ennemis de l'intérieur. Les hérétiques, les blasphémateurs, les sorciers et les sorcières étaient les ennemis de l'intérieur. L'Église romaine s'est vécue comme assiégée par des ennemis de l'intérieur manœuvrés par Satan, et c'était l'annonce de la fin prochaine du monde. Voilà comment les gens de la Renaissance concevaient l'avenir. Et donc, actuellement, cette multiplicité de dangers qui nous assiègent crée ou risque de créer une situation où chacun se replie, où chaque nation, où chaque religion se replie sur elle-même. Et c'est ce qu'il faut éviter.
Quand vous dites chacun, par exemple, et qu'on évoquait tout à l'heure, donc les millénarismes qui aujourd'hui sont déchus, et on s'aperçoit qu'il y a une espèce de quête désordonnée, personnelle, et dans une sorte de bric-à-brac de recherche du bonheur individuel, c'est quand même pas la même dimension, quoi. On n'est pas.
Mais c'est une dimension mondiale. Mais le millénarisme est ancien. Le millénarisme, c'est l'espérance d'un bonheur de 1000 ans sur Terre. Tel qu'il est évoqué.
Le Christ.
Comment ?
Le Christ.
Revient sur Terre. Bon,
et ça, vous l'expliquez très bien. Vous n'allez pas vous mettre en valeur, mais je peux le dire à votre place. Vous expliquez comment cette croyance a marqué des siècles.
Et abouti au socialisme.
Christophe Colomb, les pères pèlerins, le socialisme.
Alors, on ne comprend rien à la politique des États-Unis, notamment celle de Bush, hein, si on n'a pas à l'arrière-plan que les premiers citoyens américains étaient des millénaristes. Et ça, c'est-à-dire que la paix dans le monde, la justice dans le monde, allait venir par cette nation élue, les nouveaux États-Unis. Eh oui. On comprend beaucoup de choses à la politique de quelqu'un comme Bush quand on se resitue cet arrière-plan millénariste.
Et le Christ allait venir ensuite pour mille ans
de paix sur terre, avec les justes ressuscités.
Ouais. Et ce que vous expliquez vous très bien d'ailleurs, c'est comment dans le socialisme est le plus respectable du 19e siècle, on retrouve cela chez un Pierre Leroux par exemple.
Mais Pierre Leroux, l'inventeur semble-t-il du mot socialisme, avait écrit « Le paradis doit venir sur terre ». Et il est certain que les millénaristes ont frayé le chemin au socialisme, ça, il n'y a aucun doute.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel, c'est une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre parce qu'elle a évidemment une dimension personnelle. Quel a été, Jean Delumeau, le plus grand échec de votre vie et comment l'avez-vous surmonté ou du moins avez-vous tenté de le surmonter ?
C'est peut-être le mot échec que je discuterai,
oui,
parce que la mort est toujours un échec, hein, un échec pour chacun d'entre nous. Bon, il s'agit évidemment du décès de mon épouse il y a 11 ans. Elle avait la maladie de Parkinson, elle a descendu lentement la pente, puis tout en conservant tous ses moyens intellectuels. Mais là, elle était à la fin de sa vie, elle était en fauteuil roulant, etc. Et par conséquent, nous avons vécu ensemble cette descente, en essayant de la partager le plus possible, mais elle est arrivée par une maladie adjacente, mais enfin au bout de 11 ans. Donc. Alors, bien sûr, nous étions mariés depuis 52 ans quand elle est morte. Et ça fait un vide énorme pour moi. Et bien sûr, je ne peux pas dire que je n'ai pas surmonté ce deuil, cette séparation, ce vide, parce que nous vivions constamment ensemble, n'est-ce pas ? Et par conséquent, ça a été un grand vide. Mais en même temps, je me suis dit, d'ailleurs, une de mes collègues, professeure à la Sorbonne, m'a écrit à ce moment-là, « Ne baissez pas les bras ». Et elle avait raison. Et il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras parce qu'il faut continuer à travailler. Et j'étais, au moment de sa mort, j'étais en train de rédiger mon dernier tome de l'histoire du paradis, Que reste-t-il du paradis ? Et précisément, je peux dire l'endroit où j'étais arrivé. Oui. Et alors, je sais qu'elle avait souhaité qu'à ses obsèques, puisqu'elle était bretonne, elle avait souhaité qu'on chante le cantique Arbarados, le paradis.
Jésus Pegen Brasé, Pijard Durand Néné.
Ah, vous connaissez, oui. Eh bien, elle avait demandé, c'est chanté par Jeanne Offray, à qui on avait demandé la permission de passer son CD dans l'église, etc. Et j'étais pratiquement arrivé là dans mon livre quand elle est morte.
Mais est-ce que le fait d'être ainsi un intellectuel ou un historien qui en même temps sait beaucoup de choses et a beaucoup réfléchi à tout ça, est-ce que ça vous a aidé à supporter cette mort ?
Oui. Alors voilà, je vais répondre très franchement à votre question. Parce que parmi les croyances chrétiennes, à mon avis, une des plus belles, des plus réconfortantes, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Mais les gens ne savent peut-être pas toujours très bien. D'autant plus qu'il y a deux significations différentes de l'expression.
Rappelez-les-nous.
Alors, une expression plus théologique, c'est la communion aux choses saintes, par exemple au sacrement. Mais l'acception la plus fréquente, et celle qui est d'ailleurs dans le credo qu'on récite, c'est « je crois à la communion des saints », c'est-à-dire que les morts ne sont pas séparés de la vie, que les morts et les vivants continuent à, en quelque sorte, communiquer entre eux. Et ceci est au cœur de la croyance chrétienne, et notamment à partir de la très belle doctrine de saint Paul du corps mystique. Nous sommes tous partie intégrante du corps mystique du Christ, corps dont le Christ est la tête. Et par conséquent, vivants et morts continuent mystérieusement à communiquer entre eux et donc à s'épauler mutuellement. Et ça, j'y crois beaucoup.
Pardonnez cette question très personnelle, hein, mais est-ce que dans ce mystère de la communion des saints, vous ressentez un lien personnel avec votre
oui,
femme ?
Oui, oui. Oui. Je ne dirais pas un lien affectif au sens un peu simple du terme, mais je dirais un lien de cœur, voyez-vous. Je crois que nous restons liés les uns aux autres, et en plus, j'ai essayé de montrer dans mon livre « Que reste-t-il du paradis », c'est la fin du livre, que c'est une doctrine chrétienne ancienne, mais qui n'a refait surface pratiquement dans la civilisation chrétienne qu'au XVIIIe et XIXe siècle. Avant, vous ne trouverez pas cette doctrine exprimée comme ça, comme je le fais, dans les sermons de Bossuet.
Comment expliquez-vous justement que ça ressorte à ce moment-là ?
Oui, alors précisément, ça a été, et je vais peut-être étonner les auditeurs, mais ça a été une des conséquences du succès de la nouvelle Héloïse de Rousseau. Car dans ce roman, l'héroïne, qui n'a pas pu épouser son précepteur parce qu'il y avait des contraintes familiales, donc elle est devenue une épouse modèle, mais de quelqu'un qu'elle n'aimait pas, mais le pasteur, c'est un pays protestant que ça se passe, le pasteur vient la voir, visite rituelle, etc., et le pasteur lui dit en substance, ne pensez plus à la terre, dans l'au-delà, il n'y a plus ni mari, ni femme, etc., etc. Et à quoi elle répond, si je ne dois pas le retrouver dans l'au-delà, il vaut mieux que je meure définitivement.
C'est donc, Rousseau, ça.
Oui, d'accord, bien sûr. Mais en même temps, ça fait ressurgir une doctrine qu'on trouve chez saint Cyprien, chez saint Bernard, chez Thérèse d'Avila. Voyez-vous, la doctrine qu'on retrouve au paradis ceux qu'on a le plus aimés sur terre. Et j'ai terminé mon livre « Que reste-t-il du paradis ?» sur une phrase de Thérèse d'Avila qui, dans un récit d'une de ses visions, avait été, dit-elle, transportée au ciel. Et là, les premières personnes que j'y vis furent mon père et ma mère.
Mais est-ce que vous avez, après toutes ces années consacrées donc à la réflexion sur le thème du paradis, est-ce qu'il vous arrive de visualiser le paradis ?
Non.
Non.
Pas du tout. Non. Pas du tout,
et
justement.
Vous ne le cherchez pas ?
Je ne cherche pas. Je ne cherche pas parce que, justement, mon livre « Que reste-t-il du paradis ?» Et si j'ose dire, si j'ose m'exprimer ainsi, mais les lecteurs comprendront ce que je veux dire, c'est une déconstruction du paradis visible.
Oui,
parce
ça,
que, par définition
presque
même...
Presque une démarche d'orthodoxe, presque.
Oui, c'est en dehors de nos possibilités visuelles, auditives, etc.
Et, pas d'anthropomorphisme, quoi.
Non, voilà. Et justement, saint Paul avait très bien dit dans la première épître aux Corinthiens que Dieu nous révélera ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ce qui veut dire, n'essayons pas de nous figurer le paradis, faisons confiance, la foi, c'est ça. Faisons confiance... Confiance qu'autour de Dieu, l'humanité sera réconciliée avec elle-même, sera réunie autour de Dieu, hein, et notamment que nous serons à côté de ceux que nous avons le plus aimés sur terre.
Donc, autrement dit, vous nous demandez d'avoir suffisamment de modestie et de foi pour accepter le mystère.
Il faut accepter le mystère. Et ça, alors justement, c'est une pensée qui pour moi est très importante. J'admire le travail scientifique, je ne le cache pas, j'admire beaucoup le travail scientifique, mais néanmoins, je pense qu'il y a des domaines au-delà du temps et de l'espace, que la science ne pénétrera jamais. Et en revanche, le paradis se trouve dans cette zone, qui est une zone de mystère, qui n'est pas interdite à la foi, mais où la science ne pénétrera pas.
Septième et dernière question récurrente de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, Jean Delumeau, quelle est votre motivation essentielle dans la vie ?
Alors, ma motivation, c'est d'abord, très égoïstement, c'est d'essayer de continuer à écrire. Parce que je crois que c'est une façon de bien vieillir. Et il faut y songer quand même quand on a mon âge. Et donc, il s'agit au maximum de conserver en forme, et notamment l'intellect en forme, pour pouvoir communiquer avec les autres, bien sûr par la parole, mais aussi par la plume, par la radio. Voyez-vous, par la télévision, tout ce que vous voulez. Donc, maintenir le contact avec les autres et en ayant l'esprit suffisamment sain et alerte pour pouvoir le faire. Ça, c'est une de mes grands soucis. L'autre grand souci, c'est le contact aussi proche que possible avec mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants.
Oui, vous parlez de votre famille. Alors, je suppose que quand on a l'expérience d'une maladie comme celle de votre femme, ça vous permet de découvrir autour de vous des trésors insoupçonnés de délicatesse, hein, de capacité
oui,
de ton, oui, de
soi. Oui, oui,
est-ce
oui.
que ce que je vais dire est peut-être terrible, mais est-ce que cette mort, ce n'est pas un peu un capital pour votre famille, au fond ?
Ça, je ne sais pas.
Terrible ce que je vous dis, hein, mais est-ce qu'entre vous, ça ne crée pas quelque chose, un lien formidable qui vous permet de...
Ça, je ne peux pas parler pour les autres. Hein. Pour moi, oui, certes, sans aucun doute. Sans aucun doute, pour les autres, vous savez, la vie après disperse les gens. Il y a les urgences quotidiennes, etc. Donc là, je ne peux parler que pour moi.
En tout cas, pour vous, hein. C'est ça.
Mais alors, pour moi, je peux dire que j'y pense tous les jours. Oui.
Alors, au fond,
donc, c'est un capital dans lequel je puise, pour reprendre votre expression.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me permettais cette question aussi directe. Hein. Mais au fond, est-ce que le plus grand clivage entre les humains n'est-il pas, plus que l'argent, plus que les idées politiques et tout le reste, le fait d'avoir eu ou non l'expérience auprès de soi d'une très grande maladie et de la mort, et de les avoir ou non assumées ? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait le clivage ?
Oui, alors, c'est vrai. Maintenant, alors, je dois dire aussi que... Bon, ma femme était donc impotente, en fauteuil roulant, etc. Mais nous avions une maison que j'ai toujours d'ailleurs, avec un très grand rez-de-chaussée qui permettait donc de conserver une malade à la maison. Avec fauteuil roulant, on pouvait aller sans effort sur la terrasse, manger s'il faisait beau, etc. Voyez-vous, par conséquent, en outre, il y avait tout un service, si je veux dire, d'intendance, qu'elle et nous avions mis sur pied, de sorte que, il y avait par exemple une veille, des gens qui se relayaient et qui étaient payés naturellement, mais chaque nuit, elle était veillée par quelqu'un. De sorte que moi, je n'avais pas à me lever la nuit, il y avait quelqu'un. Alors, ça a beaucoup allégé le travail d'aide à la malade. Et ça, j'en ai été, je le dis franchement, le bénéficiaire, en ce sens que je pouvais continuer à travailler. Bon, j'étais dans la chambre à côté. Si elle avait besoin, j'étais là. Mais, et même, on peut maintenant, avec des fauteuils roulants pliants, on peut emmener quelqu'un en promenade. On met le fauteuil roulant plié à l'arrière de la voiture. J'ai pu la promener jusque dans les derniers mois de sa vie.
Mais est-ce que vous disiez, par exemple, je voudrais écrire cela pour qu'elle ait le temps de le lire ?
Non, parce que d'abord, je ne prévoyais pas le moment. Il est vrai qu'elle était très fatiguée. L'infirmière me disait, elle est au bout du rouleau, et ça, je le sentais. Mais je n'avais pas prévu la date, non. Je faisais mon livre, il fallait le faire, voyez-vous. Et puis, ça s'est arrivé quand le livre était, disons, aux deux tiers rédigé.
Un mot pour ceux qui seraient dans une expérience assez proche de la vôtre aujourd'hui et qui pourraient bénéficier d'un conseil de vous ?
Alors là, je suis bien en peine. Je suis bien en peine. Le conseil, c'est d'essayer de conserver le maximum de sérénité, mais je dirais aussi d'avoir prévu longtemps à l'avance ce qui peut se passer. Car quand on est jeune... ou moins jeune encore, mais en activité, on ne se rend pas bien compte des problèmes de la vieillesse, notamment des problèmes d'escalier, par exemple, tout bonnement. Et il est très important d'avoir songé à un lieu d'habitat qui peut accepter l'infirmité, qui peut matériellement, concrètement, et ça facilite beaucoup l'équilibre général de tout le monde.
Jean Delumeau, merci de la confiance que vous venez de nous témoigner. Ainsi s'achève cette émission donc de la série L'Essentiel, avec donc l'un des plus grands historiens français, Jean Delumeau, membre de l'Institut. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci.